La parole ne pourrit jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidimet sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigue littéraire de ce jeudi 14 mai 2026, férié. Un jour férié pour des amours manqués. Un jour férié pour des instants volés. Un jour férié pour des moments interdits. Un jour férié pour de dangereux plaisirs. Un jour férié pour à l'inconnu dit oui. Un jour férié pour explorer en soi la vie. Ce jour est férié, c'est l'ascension. Mais nous la passons autrement. Nous nous laissons emporter dans un monde poétique, celui dans lequel les mots refusent d'être passifs. Ils agissent et tapissent le corps de l'homme. Et si les mots deviennent un espace de vérité, une vérité douleur, une vérité plaisir, une vérité à la fois claire et sombre, lumineuse ténèbres, un livre aux mains féminines, porteur d'un message symbolique, entre la lumière et l'obscurité, il n'y a qu'un pas. Il est de Hassel Adiho, poétesse. Quand la lumière et les ténèbres se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Ce livre de 66 pages, paru cette année aux éditions Isidore de Souza, est composé de 39 poèmes qui oscillent entre les joies et les peines. Que deviendront lorsqu'on lit Lumineuses ténèbres? Dans quel état d'esprit se trouve-t-on lorsque le cœur est glacé de douleur avec une bribe d'amour? Nous le saurons avec notre invité. Mais avant, nous allons suivre le cachet littéraire avec Nadia Bojito. Nadia, bonjour.
Bonjour, Enoch.
La pleine forme?
Oui.
Alors, bien. Vous nous proposez quoi aujourd'hui?
Bâtisseur des pensées, éclaireur de mots et lecteur insatiable, bonjour. Dans le secret des pages, les mots s'éveillent, questionnent le monde et révèlent parfois ce que le silence n'ose dire. Pendant quelques instants, une traversée s'offre à vous, celle du cachet littéraire. En prélude à cette actualité des lettres, prenons la direction de la cité des Koburu, où se tiendra du 28 au 30 mai 2026 la première édition du Festival du Livre de Parakou, placé sous le thème « Lire pour bâtir le livre comme ciment du vivre ensemble ». Cette rencontre ambitionne de promouvoir la lecture et de valoriser le rôle du livre dans la cohésion sociale. L'événement se tiendra à l'Université de Parakou, à l'Institut français, dans des bibliothèques ainsi que dans plusieurs établissements scolaires. 3 jours de rencontres, d'échanges et de découvertes autour du livre et de la culture. Et lorsque la lecture rapproche les communautés, elle devient aussi un précieux outil de transmission auprès des plus jeunes. Le Centre Bénin Excellence de Godomé-Aimevo va accueillir le samedi 30 mai 2026 à 10h une séance de présentation et de dédicace autour des ouvrages « Les trésors de ma nutrition » Fatih, la petite africaine, raconte avec sa maminette sa formidable histoire de santé, tome 1 et 2 signé Daniel Plia. À travers les livres destinés aux enfants et aux parents, l'auteur propose une approche éducative autour de la nutrition, de la santé et des bonnes habitudes de vie. Une initiative qui mêle littérature jeunesse, sensibilisation et transmission familiale autour du savoir. De l'univers de l'enfance à celui du partage familial, le livre continue de tisser des liens. À l'heure où les écrans occupent une place grandissante dans les foyers, certaines initiatives choisissent de redonner au livre une place centrale. C'est le cas du programme « Lecture en famille » porté par la librairie Théraplume. Pensé comme un accompagnement culturel et éducatif, ce concept encourage parents et enfants à faire de la littérature une habitude régulière et partagée. À travers une sélection d'ouvrages adaptés à tous les âges, l'initiative entend promouvoir le goût du livre, renforcer les liens familiaux et favoriser l'épanouissement intellectuel dès le plus jeune âge. une manière de rappeler que la lecture demeure un espace de dialogue, d'imagination et de transmission. Ainsi se présente la charpente de votre cachet littéraire, votre escale au cœur des livres. Merci de l'avoir suivi et que la magie des lettres vous accompagne.
Merci Nadia pour cette randonnée littéraire. Je l'avais annoncé plus haut, nous parlerons de ce dernier livre, Lumineuses ténèbres. Il est une commission d'Asela Diro, poétesse ou poète bien sûr. De toute la façon, elle nous dira de quelle position elle est. Donc avant de vibrer au rythme des poèmes, nous irons à la régie. Écoutez.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducaction.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour entrer de plein pied dans votre émission La Vigue littéraire, dont le thème est Lumineuses ténèbres, un contraste entre les joies et les pernes. Asel Adiro est notre invitée. Elle est d'ailleurs l'autrice du recueil de poèmes paru cette année aux éditions Isidore d'Osouza. Asel, bonjour.
Bonjour, monsieur Enoch.
Vous allez bien?
Bien, et vous?
Ça va, ça va.
D'accord.
C'est un plaisir de vous retrouver ici sur notre émission. Vous êtes une habituée de cette émission. Et vous êtes d'ailleurs auteur, pour ne pas dire autrice. Alors, vous écrivez plus de la poésie que les autres genres littéraires. 4 livres personnels, justement, dont 3 poésies. Pourquoi ?
Je dirais que j'aime beaucoup plus la poésie parce que elle fait danser les mots. Elle fait dire aux mots ce qu'ils ne sont pas en réalité. C'est-à-dire qu'avec la poésie, vous pouvez manier autrement les choses, dire des choses dures dans un langage assez sympa, dire des choses sympas dans un langage beaucoup plus dur, beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'avec la poésie, vous pouvez transmettre des émotions de façon légère en sachant manier les mots.
Ça dit que le genre roman n'est pas propre à cela. Dans le genre roman, il n'y a pas ce maniement de la langue.
Il y a certains auteurs qui arrivent quand même à allier la poésie avec le récit. Quand vous prenez par exemple l'ouvrage de M. Hilaire d'Ovonon, son recueil de poésie, Floraison des Baobabs, vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire qu'il écrit des nouvelles, mais vous sentez de la poésie. C'est-à-dire que les mots sont chantés. Il y a une certaine musicalité dans ce qu'il écrit. C'est ça, j'appelle. C'est pour ça que moi, j'aime réellement la poésie, parce que c'est beau.
D'accord. Vous revenez sur la scène littéraire avec un recueil de poèmes, Lumineuses ténèbres. Et j'ai comme l'impression que vous forcez ou vous aimez l'oxymore. Parce qu'en 2019, je lis Joyeuse Mélancolie. Et vous revenez cette fois-ci avec Lumineuses ténèbres. Et même au pitch, justement, au niveau du pitch, vous donnez à lire. Asel Adiro aime s'amuser avec les mots, les faire rouler sur le lit de nos émotions pour en faire jaillir nos silences assourdissants. Vous dites nos silences assourdissants de douleur et nos bruits de bonheur si apaisants. C'est-à-dire nos bruits si apaisants. Pourquoi ?
Vous savez, il y a des personnes, vous les voyez, elles sont calmes, mais quand vous les regardez, c'est-à-dire attentivement, leur silence vous parle. Leur silence est
éloquent.
Voilà, éloquent, c'est-à-dire il ne dit rien, mais il n'en dit pas moins. C'est-à-dire, l'oxymore, est-ce que je force ça? Non, je dirais que j'aime. Oui, j'aime ça parce que ça fait transparaître la dualité, c'est-à-dire la dualité
le
de
contraste.
La vie, le contraste. C'est ça que j'aime, le blanc, le noir. C'est-à-dire, c'est les deux faces d'une pièce de monnaie. C'est-à-dire, rien n'est statique, quoi.
Tout bouge.
Oui,
tout peut changer à tout moment.
Tout peut changer à tout moment.
Est-ce à dire qu'on peut s'attendre à un titre oxymorique pour les prochaines parutions?
Oui, évidemment, comptez sur moi.
Donc, on peut vous appeler désormais la dame oxymore.
Oui, allez-y.
Alors, Lumineuses ténèbres, le livre est lu de cette semaine, on a commencé à parler. 39 poèmes et vous avez 39 ans. Et c'est fait à dessein ou c'est une manière de célébrer en différé votre anniversaire?
C'est fait à dessein parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les choses qui ont un sens, les chiffres. Je m'attache beaucoup à ça. Je crois que Joyeuse Mélancolie également, il y avait une relation assez fine avec mon âge. Donc, c'est un peu peu, comment je vais dire, c'est un peu ma façon de me célébrer, je vais dire ça comme ça.
Vous célébrez, donc ce n'est pas une manière de reconnaître que voilà, c'est mon jour d'anniversaire, parce que le livre est paru ce mois-ci.
Oui.
Est-ce que le mois retenu est votre jour d'anniversaire?
Je suis née le 31 mars, donc, mais on est en 2026, ça court jusqu'à décembre.
En tout cas, le livre est scindé en quatre parties, le premier poème logé dans la première partie, et quand les ténèbres tapissent l'âme, est intitulé « Il est des douleurs ». Et donc, suivons cet extrait, la page 13.
Page 13. Il est des douleurs. Il est des douleurs indicibles, de celles qui crient fort en soi. Il est des douleurs qui refusent de se révéler à l'extérieur et tapis en soi, consument l'âme. Il est des douleurs fortes, de celles qui rendent faibles. Il est des douleurs incrustées dans chaque parcelle du corps qui ronge du dedans de soi. Il est des douleurs monstres, de celles qui tachent la peau. Il est des douleurs qui colorent de noir l'intérieur et renversent, mais qui jamais ne doivent tuer.
Alors, c'est un poème à trois strophes. Vous donnez à lire un texte simple. Pourquoi classer les douleurs, les indicibles, les fortes et les monstres?
Est-ce que c'est pas forcément une classification, mais il faut pas penser que la douleur indicible, elle est au-dessus de la douleur forte. C'est juste pour construire le poème. Mais j'ai essayé d'identifier un peu des douleurs. Chacun peut prendre la douleur
qui lui parle, c'est ça?
Voilà, qui lui parle et qui l'identifie de douleur forte. La douleur qui est forte pour moi peut ne pas être forte pour vous, elle peut être une douleur indicible. La douleur indicible, c'est une douleur un peu muette qu'on n'a pas forcément envie d'évoquer avec tout le monde, qu'on a envie de garder pour soi.
C'est ça qui crée la dépression, c'est ça?
Toute douleur crée de la dépression si ça dépasse votre seuil de tolérance.
Alors dites-moi, quelle différence faites-vous entre les douleurs fortes et les douleurs monstres?
Vous savez, la douleur qui est monstre, c'est la douleur qui vous terrasse et qui vous empêche de vous relever. Parce qu'elle est tellement profonde, comme je dis, elle est tapie dans votre âme. Elle est très, très douloureuse. Donc, la douleur indicible, bon, on peut quand même essayer de s'en sortir si on arrive à mettre des mots sur la douleur, si on arrive à en parler. La douleur qui est forte, c'est la douleur qui vous rend faible, comme je dis, et qui vous transforme un peu. Mais la douleur qui est monstre, c'est celle-là qui est vraiment, je dirais, c'est le dernier niveau de la douleur. Et c'est vraiment, comme je dis, elle ne doit pas vous tuer. Il y a des personnes qui traversent des douleurs qui pour elles sont vraiment insurmontables. Et donc, ces personnes-là peuvent malheureusement se donner la mort. Elles peuvent se venger pour essayer de rendre justice. Elles peuvent faire tant et tant de choses. Parce qu'une douleur qu'on n'arrive pas à soigner, une douleur qu'on n'arrive pas à guérir, franchement, ça fait des dégâts. Donc, il est important de soigner sa douleur. Il est important de guérir de ses blessures. Il est important, franchement, de faire un travail sur ces douleurs-là pour pouvoir avancer et continuer à vivre.
Soigner sa douleur, guérir de ses blessures.
Oui.
J'ai comme l'impression que votre message est corporel, presque médical. Je lis dans le poème « Tape en soi, dans chaque parcelle du corps, tache la peau. »
Oui, parce que une douleur que vous n'arrivez pas à guérir, c'est-à-dire la douleur qui est muette, qui est en vous, que vous cachez, que voilà, cette douleur-là, elle ressurgit sur votre corps, c'est-à-dire elle ressurgit physiquement. Il y a des personnes qui parfois, elles n'ont pas de problème de santé, mais parfois, vous avez des éruptions cutanées, ou quelqu'un qui n'était pas malade du tout, qui avait la pleine forme, commence à développer développer des maladies bizarres. Ou aujourd'hui, on se dit, je ne vais pas en parler, ce n'est pas la peine d'aller voir un psychologue, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. Alors qu'il est bien de pouvoir s'en ouvrir à des gens qui peuvent vous aider. Aujourd'hui, notre société a tendance à taire la douleur. On dit femme forte, femme indépendante, femme capable.
Féministe, c'est ça?
Je ne parle pas des féministes. C'est-à-dire un homme aussi, c'est-à-dire on dit par exemple l'homme ne pleure pas, l'homme doit savoir gérer ses émotions. Donc il y a toutes ces choses qui combinées nous interdisent en fait d'exprimer nos émotions. C'est-à-dire on nous interdit mais vraiment de nous apitoyer sur notre sort, de parler de ce qui nous fait mal. Moi je dis il faut en parler.
Oui mais aujourd'hui la société n'est plus comme avant. Le regard qu'on porte sur vous quand vous partagez une douleur, ce n'est plus comme avant.
Je c'est pas un appel à aller toquer à toutes les portes pour dire ah tu sais j'ai mal ici hein, non mais il y a des gens qui peuvent vous écouter. Si par exemple, je suis amie, c'est ça le problème, je suis amie avec Enoch. Je n'ai pas envie d'aller parler à Enoch parce que je sais qu'Enoch, il ne garde pas sa
bouche. C'est un moulin à parole.
Voilà.
Mais je ne le suis pas.
Je ne vais pas aller parler à Enoch. Mais il y a des spécialistes. Franchement, il y a des psychologues. Je crois que c'est à des endroits donnés, c'est à 6 000, c'est à 5 000 la consultation. Allez voir des spécialistes pour guérir. C'est important. Parce que quand vous ne guérissez pas de vos blessures, mais vous en blessez d'autres. Vous blessez d'autres. Vous blessez ceux qui vous entourent. Il y a des gens, vous êtes dans le même milieu que vous êtes dans le même entourage. Faites professionnel avec eux. Ils viennent le matin, mais les mots sont tac, 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 tac. Et ce n'est pas toujours agréable.
Alors, votre poème, ma foi, est une progression de l'invisible au visible, de l'âme au corps, à la peau. Après 14 vers d'ombre, vous dites, mais qui jamais ne doivent tuer. Cette négation finale est donc la lumière?
Oui, parce que pour moi, rien ne peut justifier, c'est-à-dire aucune douleur ne peut justifier qu'on se fasse du mal à soi-même. Et qu'on fasse du mal aux autres. C'est-à-dire, j'ai mal, d'accord. Il faut que il faut d'abord que j'accepte ma douleur. Il faut que j'en parle pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir transcender ça. Maintenant, quand j'arrive à passer à cette étape où je suis transformée positivement, ça passe. Mais quand vous n'arrivez pas à passer cette étape-là, vous êtes là, vous ruminez votre souffrance, vous ruminez votre douleur et vous concoctez des plans ou pour vous détruire ou pour détruire l'autre qui a été source de votre douleur.
Alors, Il est des douleurs, c'est le premier poème qui ouvre la porte à la série de poèmes qui se retrouvent dans votre livre. Comme je l'ai dit, le dernier vers, c'est pour parler de la lumière. Est-ce que ce poème a suscité par hasard le titre Lumineux Ténèbres? Parce que 14 vers ont parlé d'ombre, et le dernier vers a parlé de la lumière.
Quand vous prenez l'ouvrage, c'est vrai que c'est scindé en plusieurs chapitres. Le dernier chapitre est le chapitre le plus pourvu de poèmes. C'est-à-dire que pour moi, la lumière, elle est importante. C'est-à-dire, peu importe la part de ténèbres qu'il y a en chacun de nous, peu importe la part d'ombre qu'il y a en nous, il est important que la lumière, même si c'est une toute petite lueur de lumière, il faut qu'elle entre et qu'elle fasse son travail.
Et c'est pourquoi vous avez créé ce contraste-là entre la lumière et...
Oui.
Et...
Oui, parce que comme je le disais au début, c'est la dualité de la vie. C'est le yin et le yang. C'est l'énergie positive et l'énergie négative. Chaque personne a en lui la part d'ombre et la part de lumière. Peut-être 50%, j'en suis, je ne sais pas. Mais ça dépend de chaque personne à faire progresser ou la part d'ombre ou la part de lumière qu'elle a en elle. C'est-à-dire, si Enoch décide de donner 25% de part à son côté sombre, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a 75% de part de lumière. Voilà. Maintenant, si tu décides de donner 90% à ta part d'ombre, tu vois ce que tu deviens. C'est tout le côté sombre qui apparaît. Donc, il y a cette dualité-là, mais il faut que chaque personne, chaque individu se dise quelle est la part part de... Qu'est-ce que je nourris? Je nourris le côté noir ou je nourris le côté lumière? C'est ça
et
le
vous,
problème.
Et vous, c'est quel côté là?
Moi,
soyez honnête.
Hein. Ouais, bon, disons qu'actuellement, je nourris le côté lumière parce que c'est important. Oui, c'est tellement bon quand vous illuminez votre entourage d'éclats, de
pour
de
recevoir
lumière.
Un entourage d'ombre.
Pas forcément, mais quand vous arrivez quelque part, vous savez, quand il y a une obscurité épaisse quelque part, il suffit d'une petite lumière et puis tout s'éclaire. Donc voilà, je
alors, souhaite quand que les ténèbres colorent le corps, le cœur, pardon, et la seconde partie de votre recueil, je me suis intéressé au poème de la page 29. Le titre est « Sous le soleil ». Suivons l'extrait.
Nous n'irons plus jamais.
Page 29. Sous le soleil. Sous le soleil, il y a toi et moi, mais pas de nous. Enfermés dans nos désarrois, il sait flétrir, triste nous. Sous le soleil, il y a la pluie, grosse goutte de nos disputes. Du beau nous d'avant, plus rien. Notre amour est en fuite. Sous le soleil, il fait beau, mais nous, totalement nuageux, amant d'antan, fougueux, tout a pris fin, trop tôt. Sous le soleil, il fait noir, nous deux, plus de miel, nos baisers, goût de fiel, triste vérité, dur à croire.
Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Alors nous avons ici l'anaphore, sous le soleil, il y a un écart entre l'extérieur lumineux et l'intérieur qui s'éteint. Le soleil revient chaque fois, à chaque strophe, comme un décor qui refuse de changer. On passe de nous à triste nous, puis notre amour en fuite, puis plus de miel. Nous sommes dans une dégradation du vocabulaire amoureux. Ça chute.
Oui, ça chute parce que, en fait, j'avais envie de faire voir cette... Vous savez, quand on tombe amoureux...
Fraîchement.
Oui, quand on tombe amoureux, fraîchement, vous savez, on s'appelle...
Tous les jours, qu'est-ce que tu as mangé?
Qu'est-ce que tu as mangé?
Tu as bien dormi?
Est-ce que tu as dormi?
Est-ce qu'un moustique t'a
piqué?
Comment tu
te sens? Voilà. Donc, une relation pour tenir ne reste pas forcément à cette étape d'amour, passion, le fol amour et tout. Pour pouvoir tenir, il faut plus. Donc, vous allez voir, au niveau de sous le soleil, il y a toi et moi, mais pas de nous. C'est-à-dire que la relation a pris le temps maintenant de se flétrir.
Mmh.
C'est-à-dire
faner.
Oui, de se faner. Mmh. Parce que peut-être on s'est pas compris et tout. Mmh. Donc, j'essayais d'identifier ou peut-être de comparer les gouttes de pluie aux gouttes de disputes, les disputes, les éclats de voix, les paroles qu'on ne doit pas dire, les mots qui ne doivent pas sortir. Donc pour moi, c'était l'envie était de faire voir ça, c'est-à-dire l'amour qui petit à petit dégringole, l'amour qui petit à petit fait... On voit autre chose. Donc après, on a sous le soleil, il fait beau, mais nous, totalement nuageux, amant d'un temps fougueux, tout a pris fin trop tôt.
Oui, mais ce poème utilise le quotidien et le contraste entre le soleil et le nuage.
Oui.
Est-ce pour réaliser que l'autre est encore là, mais que nous n'existe plus?
C'est ça. C'est-à-dire, avant, dans le fol amour, dans l'amour passion, on est deux. On s'aime passionnément, c'est beau, c'est tout rose et tout. Mais après, quand les disputes viennent, eh ben, c'est...
Est-ce que la poésie est amour?
Ah, la poésie, elle est plus qu'amour, mon cher Enoch. Parce que moi, je dis, c'est vrai que pour être inspiré, parfois les douleurs inspirent, parfois aussi le bonheur inspire. Donc, c'est vraiment les deux choses qui vous meuvent et qui vous portent à écrire. C'est ou le bonheur ou la douleur.
Alors, nous sommes dans la même dynamique. Il y a un poème intitulé « Que veux-tu ?» « Que veux-tu ?» c'est à la page 35.
Je t'aime depuis notre enfance, je t'admirerai tout au fond de moi.
Page 35. Que veux-tu? Femme frivole, femme facile, se laissant aller dans tous les lits, femme seule, femme vile, incapable de dénicher mari. Peu à peu, chacun part chanter, son mensonge au gré des oreilles, avide de fausses nouvelles. Et toi, tu es désappointé. Que veux-tu qu'ils disent? Ils décoiffent la réalité. Que veux-tu qu'ils disent? Ils refusent la vérité. Heureuse sans homme à ses côtés, baliverne, sornette, disent-ils. Femme respectable, se doit d'accrocher, homme à son bras, pense-t-il.
pardon si vraiment tu veux t'en aller.
Axel, vous parlez de la prostitution là?
Non, je ne parle pas de la prostitution, mais je parle du regard que la société porte sur une femme qui, à un certain âge, n'a pas d'homme à son bras. Le regard est accusateur, le regard est inquisiteur. On se dit, mais à son âge, elle n'a pas encore trouvé quelqu'un. Comme si trouver quelqu'un, c'est-à-dire trouver un homme à son bras pour une femme, voilà, est une fin en soi. Comme si c'était ça l'accomplissement de la femme, comme si c'était ça la définition.
Je vous ai toujours senti féministe par hasard, je peux me tromper. Vous pensez que les féministes vont dire oui, c'est son corps, c'est elle, elle est libre de décider ce qu'elle veut, c'est ça finalement?
Est-ce que
vous nous donnez
la ligne? Je ne suis pas dans la logique de c'est son corps, mais je suis dans la logique de laisser la femme faire ses choix.
Faire ses choix.
Oui, faire ses choix, et il y a des côtés que défendent, il y a des approches que défendent les féministes que je ne partage pas, mais je dis, je ne peux pas avoir 25 ans, 30 ans, et parce que je n'ai pas quelqu'un à mes côtés que ça me desserve. Je ne pense pas que ça doit être ça, la femme. C'est-à-dire, je vais encore plus loin, une femme qui n'a pas d'enfant, à un certain âge, on commence par lui poser des questions, on commence par lui mettre la pression, mais le problème est où? Peut-être qu'elle a décidé de ne même pas faire des enfants.
Elle a décidé de devenir sœur, soit par hasard.
Pas forcément. Peut-être que c'est un choix. Toutes les femmes n'ont pas envie de faire des enfants. Ou peut-être même qu'elle a déjà essayé et que ça n'a pas marché. Elle ne viendra pas dire sur la place publique que j'ai déjà essayé, hein, ou elle va écrire sur son front plusieurs tentatives échouées de grossesse. Non. Donc, qu'on lâche la grappe à la femme.
Je vois déjà un élan féministe. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien sur votre émission La Vigue Littéraire. Nous allons faire une pause. Écoutez.
C'est malheureux, mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher, oh, oh. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. C'est malheureux, mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher, oh, oh. Il est très fragile, je t'avais dit, maman. Si tu veux le conserver, fais très attention, oh maman. Car si ça tombe, ça se casse.
Retour en studio pour continuer notre randonnée poétique avec vous et Axel Adiro. Elle est l'autrice du livre « Lumineuses ténèbres » paru aux éditions Isidore de Souza. Le thème de ce numéro est « Lumineuses ténèbres, un contraste entre les peines et les joies ». Quand les ténèbres empoisonnent le corps est la troisième partie de ce livre, « Lettre à la mort ». C'est un poème de six vers qui se construit en trois temps. Je lis « Lettre à la mort, un jour à la mort, j'enverrai une carte ». Avec, écrite en lettres d'or, la plus belle charte, celle de la vie. Alors, est-ce qu'une déclaration de l'amour, une déclaration de l'amour à la vie?
Je dirais plutôt que c'est une forme de résilience. Vous savez tous, la chose la plus sûre, c'est qu'on partira tous un jour. On ne connaît juste pas le jour. Ou peut-être que aussi la mort ne connaît pas la vie. Donc moi, j'ai bien envie de pouvoir lui envoyer une carte postale avec écrite en lettres d'or.
Il y a un jeu de mots, existe. Carte différent de charte. Est-ce une transformation de carte en charte?
Oui, peut-être pour dire à la mort, bon, d'accord, chaque fois tu viens chercher des êtres proches, des êtres chers, mais n'oublie pas que on a besoin de vivre aussi. N'oublie pas que nous avons besoin de. N'oublie pas qu'on a besoin d'exister, de laisser une trace, de faire nos preuves.
Alors, sans transition, nous allons suivre le poème de la page 58.
Que soient tes revers.
Page 58. Demain. Demain est allégresse, plein de promesses. Telle une feuille blanche, rien n'y est écrit. Il peut être silence ou cri. Demain est si étanche qu'il ne fuit pas. Attendant ton agir, il est patiemment là, prêt pour une revanche. Demain est mille sourires, emplis de douceur et de rire, prêt à effacer la douleur d'hier et à te faire briller pour, au sommet, reste ici.
Alors, que voulez-vous transmettre à travers ces vers?
De l'espoir. Transmettre de l'espérance, c'est-à-dire aujourd'hui, peut-être que... Transmettre de l'espérance, c'est-à-dire tout peut sembler peut-être noir aujourd'hui, au moment où nous sommes. Tout peut sembler vraiment compliqué dans votre vie. Tout peut donner de la peine à voir. Mais demain, rien n'est écrit encore. Donc, c'est à vous d'écrire ce qui se passera demain. C'est à vous. Demain, c'est blanc. Il n'y a rien d'écrit dessus. Comme je dis, demain est si étanche qu'il ne fuit pas. Attendant ton agir, il est patiemment là, prêt pour une revanche. Donc, si tu veux prendre une revanche sur la vie, ben, ne t'apitoie pas sur ton sort.
Alors, dans ce recueil, qu'est-ce qui vous incarne la lumière? Qu'est-ce qui reste cette lumière-là dans tout ce recueil?
Si je dois choisir un poème, ce sera « Et Dieu dit ». Parce que...
Parce que c'est l'ascension, c'est ça?
Parce que qu'on le veuille ou pas, on peut être croyant ou non, hein, il est important de croire en quelque chose. Moi, je crois en Dieu. C'est moi ma croyance. Je suis catholique. Donc, il n'y a rien que je veuille faire et que je ne confie pas au Seigneur. Pour moi, il est important. Et même quand vous êtes au plus bas, quand vous êtes terrassé par la douleur, à un moment donné, Dieu dit, mais bon, quand même, ma fille, elle a trop souffert. Ah bon? Il faut que je m'occupe d'elle.
Qui sont les poètes ou poétesses que vous lisez?
J'ai lu, quand j'étais toute petite, quand j'étais encore au collège, j'ai lu Baudelaire. Je me rappelle. Les Fleurs du Mal. Mm-hmm. J'ai lu. Au départ, quand j'étais au collège, je ne comprenais pas forcément ce que ça disait. Mais quand j'ai grandi un peu...
Les Fleurs du Mal qui sont censurées là, vous l'avez lu?
c'est encore dans ma bibliothèque d'ailleurs. J'ai lu et par exemple, Les Fables de La Fontaine. Mm-hmm. Moi, j'adore ça.
Donc, il n'y a pas de poète au Bénin en Afrique, n'est-ce pas? Vous n'avez pas lu de poète ou poétesse au Bénin, n'est-ce pas? C'est quand même bizarre, hein?
Non, j'ai lu une... j'ai oublié son nom, une dame qui a fait un mélange de poèmes et de...
Les 13 océans.
Voilà, les 13 océans. J'ai trouvé ça assez dynamique. Ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Mm-hmm. Ses nouvelles même sont très, très courtes. Et ses poésies, c'est vraiment intéressant. Il y a également une nouvelle dame, une nouvelle autrice qui a été publiée récemment, qui va faire son lancement d'ailleurs, Généreuse Haï, qui a publié également un ouvrage intitulé « L'heure pour toi sonne » aux éditions IDS, qui certainement peut-être passera ici si tu décides de la recevoir.
En tout cas, je ne suis pas l'être qui positionne les livres. Il y a l'inspiration, il y a la clarté du texte avec le concours du technicien.
D'accord.
De toute façon, nous sommes là pour contribuer à la naissance de la littérature béninoise. Un mot pour conclure, une seule phrase pour conclure.
Merci. Merci à Éducation de m'avoir donné l'opportunité de parler de mon ouvrage et juste dire que peu importe la douleur que vous traversez, demain sera beau.
Et puis, partagez plus la lumière que l'ombre, n'est-ce pas?
Oui, toujours.
Merci beaucoup.
Éblouissez le monde autour de vous.
Super. Mesdames et messieurs, si vous avez suivi cette émission jusqu'ici, c'est que vous connaissez déjà ce tiraillement. Les poèmes de ce recueil ne cherchent pas à vous rassurer. Ils vous montrent que les peines ne sont pas qu'un manque de joie. La nuit n'est pas qu'un manque de lumière. Elle est sa propre clarté, plus lente, plus agissante. Elle révèle ce que le jour cache. Les silences, les failles, les élans qu'on n'ose pas nommer le matin. On ne sort pas des ténèbres comme on sort d'une pièce. On apprend à y voir autrement. Et quand les mots trouvent le bon angle, même la blessure devient sourde. Lumineuse ténèbres ne ferme pas une porte. Elle vous laisse avec une lueur qui ne vous lâche pas. Avant de mettre un terme à l'émission, il me plaît de partager cette citation de l'écrivain sénégalais Léopold de Sédar Senghor. Je cite, « La poésie ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde ?» Fin de citation. Quant à moi, je dirais à mon tour, le livre est un débat avec et bas entre le lecteur et l'auteur. Ferdinand Zamba, Jean-Marie Arrotondi, Franklin Gbeillon, Nadia Podito et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Ferdinand Zamba a assuré la manipulation technique, réalisation Estelle Digri, la coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arrotondi. Au micro, je suis Enoch Guidimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission, La Virgule Littéraire. Comme on le dit à Nadia et Isaba.
La Virgule Littéraire.
La Virgule Littéraire. La Virgule Littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Virgule Littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.